السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir dans cette masjid. Nous nous sommes réunis pour accomplir la salat, la prière. Et la prière, c'est la première obligation du croyant juste après la foi. Et la prière, la salat, qu'on appelle également namaz, c'est la première action à propos laquelle nous serons questionnés le jour de Qiyam. C'est-à-dire, après la foi en Allah, il n'y a rien de plus important pour un croyant que d'accomplir ces 5 prières quotidiennes. Qu'on se prosterne au moins 5 fois devant Dieu, devant Allah, chaque jour. C'est la moindre des choses. Chers frères et chers sœurs en islam, nous sommes réunis également ce soir dans cette mosquée parce que nous avons entre nous, entre croyants, la muhabba lillah. Nous nous aimons pour Allah. Nous avons de l'amitié pour Allah. Et lorsqu'un croyant, une croyante, lorsqu'ils vont connaître un moment de bonheur, notre cœur est également rempli de joie. Lorsqu'un croyant va connaître un moment de bonheur, nous sommes contents. Et lorsqu'un croyant est éprouvé, lorsqu'un croyant est en difficulté, nous sommes attristés. Ça, c'est des qualités de foi. Cette fraternité, cette solidarité qui va au-delà des actes, au-delà des paroles, c'est quelque chose qui est au plus profond de notre cœur. C'est vraiment l'amour qui doit exister entre chaque croyant. Et ce soir, nous partageons tous cet amour. Nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents parce que ce soir nous avons un jeune homme qui s'appelle Abdul Ghani. Je ne connais pas d'ailleurs, c'est qui Abdul Ghani? Qui lève la main? C'est vous, d'accord. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Aisha. Et ce soir ils vont se dire Nakahtuha wa qabiltuha. Enfin, c'est lui qui va dire. Il va prendre Aisha en mariage et ils vont décider à partir de ce moment de vivre ensemble, Inch'Allah, une vie épanouie dans ce dunya et une vie d'éternité, de bonheur, Inch'Allah, de le paradis auprès de notre Seigneur, Allahumma Amin. Ils vont se marier parce qu'ils mettent en pratique la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage était la sunna, la tradition de tous les prophètes. Le seul prophète qui ne s'était pas marié, c'était Isa. Ça, on le rappelle hein, dans différents discours. Isa, en français, on dit Jésus. Lorsqu'il a été élevé aux cieux, il ne s'était pas encore marié. Et là, c'est une croyance commune avec la religion catholique qu'à la fin des temps, Jésus, Isa, reviendra sur terre pour lutter contre l'antéchrist. Et après la lutte contre l'antéchrist, c'est un petit hors-sujet, mais ça va aller, après la lutte contre l'antéchrist, Inch'Allah, il va vivre une vie normale. Il sera le chef des croyants et il se mariera. Et il mourra comme tout être humain qui vient sur cette terre. Petite parenthèse concernant le symbolisme du mariage à travers l'histoire des Rusul, à travers l'histoire des prophéties. Ils vont se marier également parce que dans ce cœur, il y a de l'amour, c'est-à-dire pour un homme, pour une femme. Mais dans ce cœur, il y a avant tout l'amour pour Allah. Et quand dans notre cœur, il y a l'amour pour Allah, on se conforme à ses ordres. On va exprimer cet amour par le biais des liens du nikah, c'est-à-dire le mariage qui rend l'acte amoureux licite. Après la cérémonie du mariage, deux personnes qui étaient étrangères deviennent mari et femme et ils vont vivre ensemble. C'est la baraka, c'est le nikah qui rend cette union licite et possible. Et enfin, ils vont se marier parce qu'ils s'aiment, parce qu'il y a des sentiments. Et la religion d'Allah Azza wa Jal suit ce qu'on appelle la fitra, l'inéité. Tout ce qui est propre à l'homme, tout ce qui est propre à l'instinct humain. Il n'y a aucune frustration dans la religion. Et le mariage fait partie des choses qui sont extrêmement donc importantes. Mes chers frères et sœurs en islam, ce mariage, ce n'est pas le premier nikah hein, qu'on va officier, qu'on entend, qu'on assiste en tant que témoin. Mais je considère que ce nikah, ce mariage est symbolique. Il a une particularité. Et c'est quoi cette particularité? C'est l'union entre une jeune croyante, Aisha, donc de Saint-Denis, de famille musulmane, la famille Motala, et un jeune homme qui a accepté l'islam durant sa vie. Et nous souhaitons donc bienvenue à la famille Teixeira. Vous êtes ici chez vous. Abdul Ghani, parce que j'ai mené une petite enquête sur toi, a trouvé la hidayah, a trouvé la guidée. Allah l'a guidé vers lui il y a à peu près une dizaine d'années et il a accepté la religion du monothéisme, puis à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et à partir du moment où Abdul Ghani a lu la shahada, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et Muhammad et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu un Abdallah. Il est devenu un serviteur d'Allah et il est devenu également un de nos frères en islam. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Innama al-mu'minuna ikhwa ». Les croyants sont des frères. Le lien de fraternité, il naît à partir du moment où dans le cœur il y a la même croyance. Et là, nous voyons l'universalité de l'islam, où tout est focalisé autour de la croyance du iman. Ce qui est le plus important chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau, ce n'est pas l'origine, ce n'est même pas son statut social, ce n'est pas son rang dans la société. Là, wallah, c'est le calément, le iman qu'il y a de son cœur. Il se peut que des personnes ne se connaissaient jamais, des cultures différentes, d'origines différentes, mais à partir du moment où ces personnes ont la même croyance, ils deviennent frères en islam. Abu Bakr était un arabe. Bilal était Habashi d'Éthiopie. Salman était de Perse. On dit Salman al-Farsi. Souhaib, quel était son surnom? Souhaib, hein? Ar-Rumi, c'était quelqu'un de race blanche. C'est-à-dire qu'on a à peu près toutes les races qui cohabitaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes qui, comme Abdul Ghani, se sont converties à l'islam. Et quand ils ont lu la shahada, ils sont tous devenus des serviteurs d'Allah, des ibadullah, et ils sont devenus des frères en islam. C'est le parcours de notre jeune frère Abdul Ghani. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de caste dans notre société. La personne qui lit l'attestation de foi devient immédiatement un membre de la communauté à part entière et un frère en islam. D'ailleurs, tous les grands sahaba, ils ont connu une vie avant l'islam, ils ont lu la shahada et ils sont devenus donc musulmans. Abdul Ghani, cette fille sera bientôt ton épouse. Et cette famille, la famille Mutala, sera bientôt ta belle famille. C'est déjà en vient, alhamdoulilah. Suleiman, c'est un bon camarade. Le reste, je ne connais pas, mais c'est un bon. Mais sache aussi, Abdul Ghani, que cette mosquée, c'est ta mosquée. Et qu'en plus d'avoir un beau frère, une belle famille, une épouse, toutes les personnes qui sont présentes à cette assemblée, ce sont tes frères en islam. Et quand tu vas te marier, ils vont te féliciter comme ils félicitent un véritable frère. Ça, c'est l'amour qu'il y a dans notre religion. Mes chers frères, mes chers sœurs en islam, notre religion, ce n'est pas celle qui est montrée dans certains pays. Ce n'est pas des agissements de certains fanatistes religieux. Et j'appelle même pas ça du fanatisme religieux, des mouvements marginaux qui essaie d'avoir, de donner une certaine image. C'est pas ça notre religion. Parce que dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, et parfois même dans les courants politiques, il y a des extrémismes. Notre dîn, c'est un dîn de muhabba, c'est un dîn d'amour, où on apprend à se respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec des polythéistes à la Mecque. Il a vécu avec des tribus juives, trois tribus juives à Madina. Il a reçu délégation de Najran, de Palestine, délégation de chrétiens catholiques dans la mosquée, dans la ville sainte de Madina. Une religion d'ouverture où notre prophète privilégiait l'échange et le dialogue. Et les deux familles, pour revenir aux deux familles qui vont donc se connaître, la famille Mutala et la famille Teixeira vont aussi se rapprocher. Parce que lorsqu'il y a deux individus qui se marient, c'est également deux familles qui se rapprochent et Inch'Allah, nous demandons à Allah qu'une amitié sincère naisse dans la poitrine, dans le cœur de chacune des personnes de ces deux familles. Et ce mariage, c'est également un motif de fierté pour la communauté musulmane tout entière. Parce qu'il montre l'ouverture de l'islam sur les autres religions. Parce qu'un mariage entre deux personnes, issues de deux familles différentes, parfois de cultures différentes, qui s'aiment et qui ont comme point commun la foi en Allah et qui décident de vivre ensemble, c'est un bel exemple de respect, c'est un bel exemple d'amour et d'acceptation de son prochain. Et dans les années à venir, il y aura de plus en plus de mariages entre les communautés, des personnes qui croient en un seul Dieu, mais qui ont différentes origines au sein même de la communauté réunionnaise, et ce sera quelque chose de très enrichissant. Et Inch'Allah, il y aura quelque chose de positif également dans la tarbiyah, dans l'éducation des enfants. Abdul Ghani et Aïcha, c'est une longue histoire que vous allez écrire ensemble, une très longue histoire, Inch'Allah. À partir de ce soir, un long parcours que vous allez devoir traverser, avec parfois des moments de bonheur, mais parfois quelques difficultés, parce que nous ne vivons pas encore au paradis, nous sommes sur le dunya. Mais vous serez ensemble, Inch'Allah. Le plus important, c'est d'être toujours ensemble, jusqu'au bout, pour faire les bons choix et pour prendre les bonnes décisions. À chaque fois que notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait une décision importante à prendre, il consultait son épouse. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'amour, ce n'est pas uniquement la contemplation de la beauté. L'amour, ce n'est pas uniquement le respect de l'autre. C'est également une confiance totale qu'on va faire à notre conjoint. C'est une complicité dans toutes les étapes de la vie, surtout les étapes les plus importantes. D'ailleurs, petite parenthèse, nous savons qu'un des péchés les plus graves, tellement lourd en conséquence que la foi quitte le cœur de l'homme, c'est l'adultère, le zina. Et les savants disent que c'est un péché, Allah est mécontent de la personne qui accomplit l'adultère, mais c'est également un manque de respect de la part du mari envers son épouse, ou de l'épouse envers son mari. Parce que tromper sa femme, c'est un péché grave. Grave pour Allah, mais c'est également un manque de respect à l'égard de son épouse, parce qu'elle mérite vraiment mieux que ça. Abdul Ghani et Aïcha, sachez que la richesse de notre religion, c'est qu'il nous apprend à gérer tous les aspects de la vie. Le côté religieux, bien sûr, le côté matériel, parce que de notre dîn, on nous incite à travailler pour obtenir notre subsistance licite. Et il y a des règles d'éthique dans la manière de travailler en respectant son prochain. L'islam nous apprend également à gérer le côté émotionnel, affectif, les relations familiales. Et la vie du prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un modèle de comportement et de relations conjugales. Si tu me permets, en 2 minutes, on développe un aspect du côté religieux. Alors, c'est vague de parler de la relation avec Allah. Il y a les pratiques du quotidien, les 5 prières. Il y a les pratiques périodiques, la zakat, le hajj, le ramadan, bien sûr. Mais au-delà des actions, j'aimerais attirer ton attention et celle de ton épouse sur un point particulier. Tâchez de développer, parce que quand on est jeune, on a la motivation, on a envie d'aller de l'avant. Tâchez de développer un iman, c'est-à-dire une foi qui vous donnera une vision d'ensemble de la vie que nous vivons dans ce monde, une vision globale des années que chaque être humain passe dans ce monde et une compréhension saine et réaliste de la vie future, la vie dans l'au-delà, la vie éternelle. Et quand on arrive à ce cheminement, on arrive à faire la relation entre les 60 années, les 70 années que je vais vivre sur cette terre et l'éternité, j'arrive maintenant à faire le lien que si je veux une vie épanouie dans l'au-delà, il faut que la vie que je m'apprête à vivre de ce dunya, je vais vivre cette vie conformément aux ordres d'Allah, en mettant en pratique les principes de la religion et en s'éloignant de ce qui est interdit. De cette façon, il faut arriver à un cheminement, ne pas se focaliser uniquement sur les bonnes actions, mais comprendre ça sert à quoi les années que je vis et comment chaque seconde est importante pour la construction de ma vie future dans l'au-delà. Je vous invite donc, pour arriver à ce point, à cet objectif, de méditer régulièrement sur les textes religieux. Apprenez à lire le Coran en méditant sur le sens des versets. Essayez de consacrer un créneau horaire journalier pour apprendre la religion ensemble. On se dit que tous les jours, on essaie de garder 30 minutes où on va étudier le Coran, on va étudier les paroles, les hadiths, les paroles prophétiques ensemble, l'homme et la femme. Et vous allez voir la baraka, la bénédiction qu'il y aura dans votre foyer. Je vous invite à étudier, à méditer, à comprendre le sens des versets suivants. Méditez sur la parole d'Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Verset de base de laquelle Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour faire mon adoration. » Et qu'on réalise que, en fait, chaque jour que je passe de ce monde, l'objectif c'est que je me rapproche d'Allah, je fais l'adoration d'Allah. Et d'autant plus, petite parenthèse, nous sommes dans la première décade du mois de Dhul Hijjah. C'est une des périodes les plus importantes de l'année islamique. Et les actions ont plus de valeur que pendant les autres périodes de l'année, d'où l'importance de redoubler d'efforts dans les bonnes œuvres. Méditez sur le sens du verset « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ». Ce verset, si vous lisez la traduction et les commentaires, vous allez réaliser que le croyant, sa vie, on appartient à Allah. Et c'est vers Allah que nous retournons. Méditez sur le sens du verset « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » que l'adoration d'Allah se fait sans limite temporelle. Je suis le serviteur de Dieu, je dois rester fidèle à mes engagements jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier souffle, je dois rester de l'adoration d'Allah. Et enfin, il y en a beaucoup d'autres. Méditez sur ce verset de Sourate al-Baqara « Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilayhi » Ce verset qui nous explique la vie en une demi-ligne, qu'Allah ensuite, après la vie, vous donne la mort. La mort, c'est une réalité que nous constatons au quotidien. Ensuite, Allah vous redonne la vie. Quand on perd un être qui est proche, pour revenir au texte, pour réaliser que quelqu'un qui meurt, ce n'est pas quelqu'un qui a disparu. C'est quelqu'un qui est passé par la prochaine étape. Et ensuite, je vais retrouver la personne de l'au-delà. Et on va expliquer comment est-ce qu'on souhaiterait retrouver nos proches dans l'au-delà. Thumma ilayhi turja'un. Ensuite, vous serez ramenés à lui. C'est qui à lui ? À Allah. Il n'y a pas une créature qui ne sera pas un jour présentée auprès d'Allah pour répondre de l'intégralité de ses actions et de ses gestes, de ses paroles dans ce dunya. Ce sont des versets très forts qui nous permettent de comprendre la réalité de ce monde et qui augmentent la foi. Deuxième point, puis ce sera le dernier point, la religion, l'islam nous apprend la relation entre l'époux et l'épouse. Et il y aurait tellement d'exemples à citer, tellement d'exemples à travers la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus bel exemple, c'est comment le prophète aimait son épouse Aïcha radiallahu anha. Lorsque Aïcha buvait dans un verre, notre prophète prenait le même verre, il cherchait où est-ce que Aïcha avait posé ses lèvres, et il posait ses lèvres au même endroit, pour montrer à Aïcha que tu fais partie de moi, je fais partie de toi. Ça, c'est un amour fusionnel. À chaque fois que notre prophète alayhi salatu wassalam quittait sa maison pour aller à la mosquée, il embrassait son épouse. Et à chaque fois qu'il retournait chez lui, il faisait le siwak, nettoyait sa bouche bénie et il embrassait son épouse. Ça, c'est des signes d'amour au quotidien. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait un repas avec Aïcha, lorsqu'il mangeait de temps à autre, il prenait une bouchée de nourriture et il mettait dans la bouche de son épouse, pour que l'épouse voit que son mari l'aime plus que tout au monde. Lorsque le prophète interpellait Aïcha, il ne l'appelait pas par son prénom, mais toujours par un nom affectueux, comme on dit en créole, par un petit nom gâté. Ça fait partie des gestes du quotidien qui touchent le cœur de l'épouse. Et comme on a dit tout à l'heure en introduction, lorsqu'il y avait une décision importante à prendre, il consultait son épouse. Lorsqu'il a reçu la première révélation, il a été consulté Khadija. Lorsqu'il a eu à faire face au pacte de Hudaybiyah, c'est une longue histoire, il a consulté une de ses épouses également pour savoir quelle est la bonne décision à prendre. Une fois, Aïcha avait raconté une histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une histoire qui était longue, très longue, avec beaucoup de détails. De nos jours, il faut être réaliste, quand notre épouse s'adresse à nous, d'accord, on souhaiterait franchement qu'elle puisse compresser un petit peu, mettre en forme à zip sa conversation, afin que le téléchargement soit beaucoup plus rapide. Parce que les longues histoires, on n'aime pas trop écouter. Au travail, on écoute plein d'histoires, le temps. Le soir, on aimerait être zen, ne rien écouter, et on aurait souhaité que la femme, ce soir, respecte la loi du silence. Mais non. Quand on rentre du travail, elle a plein de choses à dire. Donc, on manque de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écouté Aïcha, qui avait raconté une histoire dans les kutubs de hadith. L'histoire fait page en page. Il avait écouté patiemment, avec amour et affection, et à aucun moment, il n'avait interrompu sa femme. Ça, c'est du respect pour son épouse. Le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé dans les bras de son épouse Aïcha. Sa tête bénie était posée sur Al-Farid, sur les cuisses de son épouse. Ça, c'était un homme qui aimait sa femme. Si on voulait parler de sa première femme qui est décédée, Khadija, des années après sa mort, il n'arrêtait pas de parler de Khadija. À un tel point qu'une de ses épouses dit au prophète d'Allah, Elle est morte depuis très longtemps. Maintenant, on est là. Allah t'a donné d'autres personnes. Le prophète a dit, Allah m'a donné d'autres personnes. Mais Khadija était quelqu'un d'exceptionnel. Les ulama disent, vous voyez, quand on parle d'un mot de muhabba, c'est quelque chose de sincère, qui n'a pas de limite dans le temps. Développer le réel amour pour Allah à travers les actes d'adoration, en méditant sur les versets qu'on a cités, mais également développer un amour fusionnel, un amour sincère qui sort au plus profond de notre cœur pour notre épouse. Parce que quand il y a la sincérité de l'amour, il y aura inshallah bonheur et bénédiction dans ce couple. On veut être de bons musulmans, nous devons apprendre à adorer Allah. On veut être de bons musulmans, nous devons également prendre des résolutions pour être un mari exemplaire ou une épouse vertueuse, comme c'était le cas de le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de son épouse. Et on va conclure avec ce hadith qui est connu de tous, que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance le jour de Qiyamah, je te laisse compléter un peu, Fanny, le bon comportement, al-khuluq al-hasan, l'action qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour des comptes, ce sera le bon comportement. Maintenant, on doit faire le lien entre ce hadith et un autre qu'on connaît peut-être un peu moins, qui nous permet de réaliser que quand on parle de bon comportement, avant de dire que je vais bien me comporter avec mon voisin ou avec celui, mon collègue de travail, la priorité, c'est bien se comporter avec celle qui partage ta vie au quotidien. Le bon comportement envers son épouse, ça c'est une qualité intrinsèque qui est propre, qui doit être propre à chaque croyant. Permettez-moi de clôturer sur ce hadith qui est magnifique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith de At-Tirmidhi d'Abu Daoud, Ahsanukum. أحسنكم لعيالكم وأنا أحسنكم لعيالي وخياركم خياركم لنسائكم. Sachez, ô musulmans, que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui se comportent le mieux avec leur famille, et que les khiyar, les meilleurs, il répète encore, les meilleurs parmi vous, c'est celui qui a le meilleur des comportements avec son épouse. Et moi, c'est le prophète qui parle, moi, prophète d'Allah, je suis votre modèle, celui qui a le meilleur des comportements avec ma femme. Donc comprenez, prenez-moi comme exemple, analysez la vie du prophète avec son épouse et on essaie d'avoir le même comportement. À l'issue de ce mariage, Abdul Ghani et Aïcha, vous allez vous aimer. Vous allez développer l'amour entre vous. Vous allez développer l'amour pour Allah Azza wa Jal avant tout. N'oubliez pas la famille. Abdul Ghani, tu as la chance d'avoir ton père qui est vivant. Est-ce que ton père est à l'assemblée? Mashallah, je croyais que c'était ton grand frère. Vous êtes très jeune, mashallah. Ta maman également, elle est présente. Vous savez, tu sais, le respect des parents, ça fait partie des qualités propres aux croyants. Même si ton père ou ta mère ne partagent pas tes croyances. Et ça, c'est un point essentiel. Quelles que soient les confessions du papa et de la maman, dans le Coran, Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants d'avoir du respect pour son père et sa mère. Ça, c'est quelque chose de prioritaire. Permets-moi de m'adresser, Suleiman, à ta petite sœur, à Aïcha. Votre maman n'est plus de ce monde. Elle serait fière de ce mariage aujourd'hui. Ton père est présent. C'est qui ton papa? Ton père qui est le témoin, Mashallah. Que ce mariage, Inch'Allah, soit la fraîcheur de ses yeux. Et que, à l'issue de ce mariage, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde des enfants pieux. Des enfants pieux qui seront la fraîcheur de vos yeux. Vous savez, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un parent qui est décédé, c'est de vivre une vie de droiture. On va faire des doigts pour nos parents. Il y a des fois, on se dit que je vais léguer un bâtiment, un immeuble, je vais donner, je ne sais pas, telle somme d'argent à mes enfants, ils seront heureux. Ils seront peut-être heureux sur le plan matériel, mais est-ce qu'il y a un, excusez-moi l'expression, y a-t-il un retour d'investissement quand moi je suis décédé? Alors que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les actions qui profitent toujours aux défunts, c'est lorsqu'on a un fils qui pratique la religion, qui est quelqu'un de droit. Et donc, ces bonnes actions seront profitables à son papa ou à sa maman qui est décédée. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre maman décédée, c'est de vivre conformément aux ordres d'Allah et avec l'intention que ces bonnes actions-là, Inch'Allah, vont profiter à ma maman qui est décédée ou à mon père qui est décédé. Et n'oubliez pas que l'objectif final, c'est d'être un jour ensemble dans le Jannah. Ce verset qu'on cite toutes les cérémonies de mariage, Jannat al-Adn yadkhuluna. Ce verset est magnifique parce que c'est un verset de clôture. C'est un verset où on décrit quand tout est fini, Quand tout est fini, c'est-à-dire quand les croyants seront dans le Jannah, dites-moi, quand tout le monde est dans le Jannah, y a-t-il encore des soucis? Y a-t-il encore un motif de stress? Non, c'est la finalité, c'est l'objectif de nos bonnes actions, c'est l'objectif de notre éloignement de ce qui est interdit. Jannat wa adn yadkhulunaha, ils vont entrer dans le paradis. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, ainsi que ceux qui ont eu les mérites, c'est-à-dire qui ont développé les qualités de foi parmi leurs parents, leurs descendants et leurs épouses, leurs familles. Donc l'objectif, c'est que chaque membre de la famille développe la croyance en Dieu pour pouvoir accéder au paradis. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, nous demandons à Allah notre Seigneur, et nous prenons cette assemblée comme tawassul, la sincérité qui anime le cœur de chaque personne ici présente. On utilise ça comme intermédiaire, on demande à Allah de déverser sa bénédiction sur cette assemblée et d'accorder énormément de rahma, de mawadda dans ce couple, que jour après jour, votre iman augmente, votre amour pour Allah augmente et votre amour entre vous augmente. Et qu'Allah vous rapproche de lui. Et qu'Allah Rabbul Izza vous accorde des enfants qui seront la fraîcheur de vos yeux. Et que vous-même, vous soyez la fraîcheur des yeux de vos parents. Et qu'Allah illumine vos cœurs. Wa subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.